Les Gardiens de la BD, épisode 182. Au sommaire cette semaine, La Bête et Sapiens, ainsi que les suites de Les Géants, Octofight, Blake et Mortimer, Le Scorpion et Thorgal. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD, toujours de chez nous et avec une semaine d'avance, enfin une semaine de retard pour vous chers auditeurs. Avec moi ce soir, les habituels Franck.
Je suis plusieurs dans mon slip.
Non mais allez, les habituels le Franck, et là tu dis bonjour, et Thibaut, bonjour.
Mais oui, j'ai compris.
Salut mes petits homo erectus.
Salut les gars.
On va commencer tout de suite avec Thibaut. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, il y a beaucoup de suites d'albums qui avaient déjà été évoquées ou en début de saison ou les années précédentes. Et donc Thibaut, tu vas nous parler du deuxième tome des Géants qui est sorti chez Glénat. Le tome 1 était sorti en septembre de mémoire.
Ouais, c'est ça. Et là, on est sur le tome 2. Alors, je rappelle le pitch de cette histoire. Il y a 6 géants qui sont cachés et endormis sur notre planète, la planète Terre. Et chaque géant est a priori relié, enfant, alors grâce à un lien qui est pour l'instant inexpliqué. Dans le premier tome, on découvre Erin, qui a 11 ans, qui est la première à être entrée en contact avec son géant, qui s'appelle Irso. Mais simultanément, il y a la multinationale Crossland qui fait tout pour mettre la main sur tous les géants, parce que cette multinationale, elle a découvert les géants prisonniers des glaces. Et elle se dit que mettre la main sur tous les géants qui existent, c'est un bon moyen d'en tirer richesse et gloire. Dans ce deuxième tome, qui s'appelle Siegfried, donc le premier tome s'appelait Erin, le deuxième Siegfried, on partage l'aventure de ce jeune garçon qui s'appelle Siegfried, il vit en Allemagne et il est handicapé, donc il est en fauteuil roulant. Ses parents travaillent souvent à l'étranger. Alors il est gardé par une sorte de nounou multicarte qui s'appelle Slimane, qui est capable à la fois de donner des leçons de piano et juste après un cours de self-défense. et Siegfried, il a multicarte. Des sortes de... Ah ouais, complètement. Il a des sortes d'hallucinations auditives, le jeune garçon. Il l'attire à chaque fois vers l'eau, soit vers sa piscine, soit vers la mer qui borde sa maison. Et en fait, c'est son géant qui s'appelle Adriel qui l'appelle. Monsieur Crossland, le patron de cette multinationale des méchants là, lui, il a trouvé le moyen de prendre le contrôle de ce géant qu'ils ont découvert dans le bloc de glace là, grâce à un système informatique électronique. Il met une sorte de casque et il arrive à prendre le contrôle du géant. La société Crossland et Monsieur Crossland a détecté en parallèle le réveil du géant de Siegfried. Donc ils ont une sorte de tablette, on ne sait pas trop comment ils tracent l'activité des géants, mais en tout cas ils ont repéré que le géant d'Erin et le géant de Siegfried, nos deux premiers jeunes héros, sont réveillés, donc ils vont commencer à traquer ces géants, et on assiste dans ce tome 2 au premier combat de géants.
Enfin.
Alors, enfin, ça arrive plutôt vite. Il y a pas mal de choses à mettre en place quand même sur ce premier tome et ce début de deuxième tome.
D'accord.
Et le rythme est plutôt bien respecté. Le scénario, du coup, il se tient toujours aussi bien. Là, évidemment, on rentre dans le vif du sujet avec ce combat de géants. On commence à avoir des pistes sur les liens qui unissent enfants et géants, mais il reste encore pas mal de brume à éclaircir. Ouais. Ouais. Mais on apprend aussi beaucoup sur la société Crossland. Pourquoi donc elle veut mettre la main sur les géants, mais surtout de quels moyens elle dispose. Alors il y a pas mal de trames qui se révèlent autour de la société Crossland, et c'est vachement intéressant. On en apprend enfin surtout beaucoup sur la typologie des géants. Donc le premier tome, on a découvert Irso, qui est un géant végétal. Alors lui, il peut faire pousser toutes sortes de plantes. Et grâce à lui, Erin, l'enfant avec lequel il est
développe
en lien...
développe un commerce de bœufs.
Même pas. Alors c'est bien dommage, parce qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire. Mais elle peut interagir avec les plantes. Adriel, donc c'est le géant de ce deuxième tome, qui est en lien avec Siegfried. Lui, il peut créer des vagues géantes ou faire pleuvoir. Et grâce à lui, Siegfried, lui, il peut respirer sous l'eau ou commander l'eau par la pensée. Il y a des choses qui sont bien faites. L'album est très bien façonné. Il y a une couverture avec les lettres en relief. C'est très beau. Et puis, vous savez, ces illustrations, ces parties d'illustrations en surbrillance. Moi, je trouve ça toujours chouette sur les couvertures de BD.
Tu veux dire avec un vernis sélectif ?
Ouais, c'est ça, un vernis sélectif, pardon, autant pour moi. Je n'ai pas été précis, désolé. Mille excuses. À l'intérieur de la couverture, on trouve en fait les ombres de tous les géants qui composent cette série.
Et on les voit en silhouette, c'est ça ?
On les voit en silhouette. Et là, par exemple, les deux géants qu'on a déjà suivis, eux apparaissent en couleur.
C'était Magic 7 ou dans Mythics.
Il y a plein de BD qui font un peu comme
Oui, ça s'est déjà fait. C'est pas,
tu dévoiles
pas une innovation. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, par exemple, Adriel, le géant qu'on suit dans cet album, il y a un petit encart à l'intérieur de la couverture avec son nom, sa taille, son poids et quelques principes qu'il caractérise.
Une fiche descriptive.
Ouais. Okay. Et autre chose que j'ai trouvé plutôt pas mal, façon un peu série d'aujourd'hui, il y a 4 pages introductives et seulement après, il y a la page de titre qui arrive avec les auteurs et on rebascule dans le récit.
Un peu comme un générique finalement.
Ouais.
Comme un générique.
C'est pareil, c'est déjà vu, mais c'est pas hyper répandu. Et en termes de rythmique pour un jeune public, parce que c'est une BD qui s'adresse à des jeunes, je trouvais ça plutôt très bien utile et bien fait.
Ok. D'accord. Merci Thibaut. Franck, des questions ?
Bah, j'en ai déjà posé un petit peu. Moi, j'avais lu et aimé le tome 1. J'ai pas eu la chance de lire ce tome 2, mais intéressant. Tu sens venir la suite. Tu penses vraiment que ça va se complexifier? Ça va.
Alors,
est-ce que c'est vraiment que jeunesse ou il n'y a pas un peu...
Alors moi sincèrement, je prends du plaisir à lire cette série, c'est très agréable. Je pense que ça peut faire un carton si ça continue sur cette dynamique, parce que c'est pas une série qui s'annonce en un nombre de tomes extraordinaire. Et je suis impatient à la fois de découvrir les nouveaux géants, les nouveaux enfants qui sont connectés à ces géants. J'ai déjà lu, par exemple, que sur le net, qu'il y a un des géants qui était relié à des jumeaux. Je pense que cette relation-là, elle va être très intéressante. Et puis, je suis impatient que tous ces enfants se rencontrent, créent leur équipe et voient un peu comment ils combattent la société Crossland.
D'accord.
Ok, merci Thibaut. Tu nous parlais.
Ouais, une petite dernière précision importante quand même. Il y a James Christ qui intègre ce tome 2 et qui prend la relève de Lilian au dessin. Lilian qui est
non,
toujours
pas au dessin à la couleur.
Non, non, le dessin, je dis bien. Le premier tome, Lilian scénario dessin.
Oui. Ouais, ouais.
Et le deuxième tome, Lilian scénario et James Christ au dessin.
Ah oui, il remplace Paul Drouin au dessin.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Donc c'est sorti chez Glénat, il y a donc déjà 2 tomes de sortie. Merci Thibaut.
Salut.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Moi je vais m'attaquer au marronnier habituel de fin d'année.
Mais qu'est-ce donc ?
Eh ben le nouveau Blake et Mortimer.
J'ai cru que tu allais dire un Astérix, mais non.
Non, non.
Ça sort plus tôt.
Ouais. Donc cette fois-ci, le titre c'est Le Cri du Moloch. C'est scénarisé par Jean Dufaux et dessiné par Schrader et Caillot. Alors pour rappel, Dufaux avait sorti en 2013 l'onde Septimus, qu'il faut absolument relire avant de commencer Le Cri du Moloch, puisque c'est la suite, mais enfin genre ça commence 2 jours après.
D'accord.
Donc c'est un diptyque qui sort pas à 2 ans d'intervalle. Enfin, ouais, enfin, à 2 ans d'intervalle, ils ont pris leur temps. Donc on va. Alors l'onde Septimus, en fin de compte, c'était une suite. Alors c'était déjà une suite de la marque jaune. La marque jaune qui avait. Alors c'est une onde qui permettait de contrôler les gens. Les actions des gens, et qui était amplifié par un vaisseau extraterrestre qui était sous terre. Dans cette suite, on apprend que il n'y avait pas qu'un seul vaisseau extraterrestre comme on croyait dans Septimus, mais il y en a 7 ou 8, je sais plus. Enfin bon, il y en a plusieurs, et que le passager du vaisseau de l'onde Septimus avait été récupéré par une partie des scientifiques qui bossaient pour le gouvernement de Churchill pour faire des tests là-dessus.
Donc il n'y a pas de zone 51.
Enfin, non, voilà, c'est l'équivalent.
C'est l'équivalent d'Angleterre.
Ouais. Sachant que c'est ça. Sachant que de son côté, pour la première fois depuis toujours, je pense, il y a un désaccord entre Blake et Mortimer, puisque Mortimer, lui, continue à travailler sur l'onde, l'onde Méga, ce qui est à l'origine de la marque jaune et qui était déjà dans l'onde Septimus, tandis que Blake fait tout pour mettre fin aux agissements des scientifiques qui travaillent sur ordre de Churchill. Donc, bizarrement, pour une fois, c'est pas plus Mortimer qui est mis en avant, parce que c'est souvent ce qui arrive. Oui. On suit vraiment leurs deux parcours, et qui, bon, à la fin, naturellement, ça finit bien. Ils vont revoir.
Ah bon?
Ils vont revoir un whisky en fumant la pipe ensemble. Il n'y a pas de problème.
Fumer la pipe, ouais.
Oui, bah, oui, oui.
Mais, et ça a vraiment un intérêt scénaristiquement qu'ils soient pas d'accord, ça ils arrivent à en jouer et à faire en sorte que ce soit intéressant.
Par moment t'as l'impression de voir, c'était pour ça que je parlais de fumer la pipe, Mortimer qui fait ses trucs en douce, c'est un peu le mari qui va voir sa maîtresse sans prévenir sa régulière. Il y a un petit côté comme ça.
Mais professionnellement.
Oui, ben voilà, oui, professionnellement. Après, donc, sinon, le truc de l'album, c'est fortement influencé par la SF. Ça rajoute quelques. Il y a un côté politique qui a rarement été dans la série. Quand on tombe sur des inventions qu'on ne peut pas contrôler, est-ce qu'il faut quand même essayer d'en faire quelque chose ou pas? Le scénario est plutôt bien construit, et surtout par rapport surtout ceux de les scénarios de Sante, les dessins sont suffisamment aérés, parce que Dufault a l'intelligence de pas trop surcharger ça en texte comme c'est souvent le cas chez
C'est ce que j'allais te demander, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est un peu rebutant, la densité du texte sans forcément avoir une densité scénaristique incroyable. Là, c'est un peu plus aéré par le dessin, tu dis. Donc, il y a
Par le script de Dufault qui a mis. Alors, il y a toujours des récitatifs parfois redondants, mais t'arrives à voir les dessins malgré tout.
D'accord.
Le dessin, c'est peut-être un des problèmes, parce qu'apparemment, ils ont fait l'album en 9 mois, d'après ce que j'ai lu. Il aurait fallu peut-être un peu plus de temps pour fignoler, parce que certaines fois, surtout au niveau des visages, on a l'impression que c'est fait à la va-vite, ce qui est un peu dommage pour un album qui se veut ligne claire. Mais de toute façon, pourquoi conseiller Blake et Mortimer?
Ce sera la meilleure vente, quoi qu'il arrive.
Oui, et puis les fans achèteront, et ceux qui veulent pas le lire le diront jamais.
Ouais. Donc, j'ai deux petites questions. Oui. Justement, le fait qu'il y ait deux dessinateurs, tu le ressens dans la lecture ou pas? Première
non.
question. Et la deuxième question. Bon, déjà, t'as déjà répondu, voilà. Merci. Non. Et la deuxième question, c'était le fait qu'on voit Ulrich sur les deux couves, enfin les couves des deux
tomes.
Ah oui,
c'est ça, bien vu. C'est ça que j'ai oublié. Et surtout, oui, le vrai héros du truc, c'est Ulrich qui est mis au premier plan, et c'est lui qui va sauver le monde. Ulrich,
ah, donc,
qui, d'habitude,
déjà un petit spoil, sympa.
Non, mais,
La couve est bien.
Ouais.
La couve est vraiment bien au niveau de ce qui se raconte dedans.
Ouais, déjà dans le précédent, c'est lui qui arrivait à résoudre le problème du vaisseau sous Londres, et là, c'est lui qui vole limite la vedette, et tu te dis que en espèce de héros tragique shakespearien, Ulrich, alors ça arrivera jamais, mais il y aurait quelque chose d'intéressant à faire.
D'accord.
Donc voilà, c'était ça.
Tu as bien donc t'es assez content de ta lecture finalement.
Bah ouais, parce que l'onde Septimus, j'avais vraiment pas aimé parce que c'était vraiment compliqué comme truc. Tu parlais des dessins déjà, l'onde Septimus, donc c'était le précédent du faux. Il y a Mono Era qui était venu faire un tour pour filer un coup de main.
Ah bon?
Ouais, ben tu le vois pas. Mais il a participé à la fin d'album, mais apparemment Dufaux, c'est le spécialiste de sortir un album, enfin les dessinateurs d'en faire un rapidement pour qu'il soit là en fin d'année quand les auteurs prévus ont pris du retard.
C'est marrant. D'accord. Que tu parles d'Ulrich qui sauve le monde et qui finalement est assez humanisé dans cet album-là, si j'ai bien compris. J'ai relu il n'y a pas longtemps Les Aventures de Philippe et Francis, qui est une parodie de Blake et Mortimer, de Weiss et de Barral. Et il y a un album SOS Météo où il y a justement un système d'ondes qui va venir dérégler la météo, et où Ulrich se fait piquer la place par Mortimer. Et il passe pour vraiment un bras cassé, Mortimer le dénigre, et du coup il devient hyper humain, hyper presque. On a de la tendresse pour lui, on a mal au cœur, et c'est vrai que c'est une faille intéressante, enfin c'est une facette intéressante à exploiter de ce côté de ce personnage.
Ouais, mais enfin ça arrivera jamais.
Non, malheureusement. Du coup, il y a une parodie qui s'appelle Les Aventures de Philippe et Francis, et c'est très bien.
J'en parle. Alors, moi, ce que je retiens quand même, c'est que tu as un côté maso, hein, Nico. Tu arrives à lire un tome suivant à un album que tu as détesté. Quoi.
Ouais, mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire une BD en plus d'une heure?
je crois qu'il nous annonce la suite de ses chroniques là, Thibaut. Je pense que Nico il va nous désinguer les albums d'après.
Non, t'inquiète pas. Sapiens, s'il l'a lu en moins d'une heure,
alors Sapiens, il m'est littéralement tombé des mains.
Non, on en parlera après. Voilà.
Mais ouais, on en parlera après. Donc, c'était le cri de Moloch de Dufaux, Schrader et Caillot, et c'est sorti aux éditions Blake et Mortimer. On va faire la première pause musicale de Loch Ness Monster de Mathilda Mann.
I'm just swimming in lakes in my mind. Don't make me get out and comply. My coy little smile will defend me while. So I'll stay with the lakes in my mind. Don't you dare think that here you can hide. We've started to stray. Nothing lost anyway. So I'll stay with the lakes in my mind. Now you've faded with no traces. So who can ever tell what you've taken's been misplaced. But your name doesn't ring any bells since the day that they took you to hell. I'm just swimming in lakes in my mind, too afraid to get out and deny. My coy little smile defend me a while. So I'll stay with the lakes in my mind. And now you've faded with no traces. So who could ever tell what you've taken's been misplaced. But your name doesn't ring any bells since the day that they took you to hell. What's it like there in hell? I'm glad they left you in hell. stay with the lakes in my mind. Don't you dare think that here you could hide.
Deuxième partie des Gardiens de la BD, toujours sur radiopfm.com et 99.9. Franck, tu vas nous parler...
De la bête.
Ouais, j'allais dire du monstre. Alors, en plus, mais non.
Bah oui, pas du monstre du Loch Ness, mais de la bête. Avant de vous parler de l'histoire, quand vous allez chez votre libraire, vous allez peut-être tomber sur ce format qui est un peu particulier. On est sur un album qui est presque carré, 150 pages, donc un beau bébé aussi, marqué en gros la bête, et vous voyez un marsupilami qui ressemble pas à un marsupilami, parce que d'entrée de jeu, on sait de quoi ça va parler, et curieusement, toute l'histoire est relativement classique, mais traitée d'une manière qui va vous surprendre si vous rentrez dans l'ambiance. Parce qu'en fait, tout le défi de cet album, c'est de rentrer dans une ambiance particulière. Donc l'histoire, c'est relativement simple. On est fin 1955, une ambiance très sombre. On est limite dans les vieux polars français, enfin et belges. Avec un jeu en noir et blanc, un jeu de lumière très particulier. Ça sent le milieu industriel, ça sent la tristesse, la pauvreté.
Ça sent le petit milieu, moi je trouve.
Il y a un peu de ça, mais comment ça s'appelle aussi là les bouquins putain, je trouve plus le nom de cet auteur.
Maigret.
Ouais, du genre Maigret, exactement. Mais
Hercule Poirot.
Non, plutôt Maigret. Et donc, on est en Belgique, on est dans le port d'Anvers, et un navire arrive avec de nombreux animaux exotiques, mais sauf que y en a beaucoup qui sont fait défoncer pendant le voyage. Il y en a qui sont morts parce que pas bien d'entretien, mais surtout parce qu'il y a un animal qui en a bouffé pas mal d'autres. Donc ça, c'est une introduction à la manière, comme on disait tout à l'heure, de scène introductive d'un James Bond ou d'un film comme ça. Et on bascule très vite dans un petit village où il y a un jeune belge, qui s'appelle François, d'où mon lapsus. François, qui est la tête de turc de tous ses camarades, parce que il a la malchance d'avoir eu un père allemand. À l'époque où c'était mal vu d'avoir un père allemand, c'est-à-dire 10 ans plus tôt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ce gamin, il a une grande passion qui est d'aider tous les animaux. Sa maison, c'est une... c'est incroyable de... C'est rempli d'animaux dans tous les sens. Il recueille le moindre animal blessé et il vit donc seul avec sa mère. Et vous me voyez arriver, forcément, c'est lui qui va... au travers de nombreuses pages, se retrouver face au marsupilami qui est complètement blessé, qui est en malnutrition, qui est abîmé de partout. Il va le recueillir sans savoir ce que c'est. Voilà pour le pitch global de l'histoire. Et ce qui est surprenant dans cette histoire de Zidrou, qui fait vibrer un peu la corde sensible du gamin et de la mère célibataire et du gamin blessé. Si, un peu quand même, mais elle n'a pas de cancer, si je veux rebondir sur les propos de Laurent Bossu habituel.
Est-ce que son père est en Argentine, au gamin?
Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est surtout le traitement graphique de Franck P. qui est derrière ça et qui nous fait un marsupilami. Alors, je vais exagérer en disant ça, mais presque réaliste. Tellement il est... Il est rapproché d'un singe. On voit les poils, on voit la salissure de son transport en bateau. Quelque part, tu vois, il y a un parallèle à faire entre la révolution qu'a été le Peter Pan de Loisel, quand il est arrivé. On est passé d'un Disney à un truc beaucoup plus crade, beaucoup plus ouvrier quelque part. Là, il y a vraiment un pendant équivalent. Un pendant équivalent, c'est joli comme expression. Et enfin, c'est vraiment un équivalent pour le marsupilami. Et donc, on n'est pas dans un mode grogné, humour, sauf que, c'est là qu'il y a un drôle de choix de la part de Franck P. On a des personnages, enfin, les humains sont traités avec un mode un peu exagéré, quelquefois, qui dénote un peu par rapport au traitement des décors et de l'animal. Et alors, vous l'avez pas lu ?
C'est une forme de revisite du marsupilami ou c'est vraiment quelque chose
totalement.
De... Non, de après, nouveau, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de...
Alors, pour entrer dans le détail, si, complètement, parce que ça fait écho aux premières histoires du Marsu de l'époque de Franquin, mais de toute façon, c'est totalement assumé, cet hommage. Mais c'est revisité en utilisant tous les... tous les indices, tous les curseurs de la BD originale. On va retrouver donc le côté animalier, le côté bah déjà le fait que les animaux de zoo, on les ramenait comme ça des pays exotiques au travers des bateaux. Les gamins dans la cour d'école, le prof qui est trop gentil et qui en pince un peu pour la mère célibataire. T'as des clins d'œil aussi envers des anciens auteurs de la BD, parce que tu vas reconnaître, alors moi après je suis pas un spécialiste, j'ai pas une culture poussée des auteurs du passé, mais il y a des têtes où tu dis ah bah lui je le connais, ah bah lui il me dit quelque chose, tu comprends quand même les clins d'œil, mais c'est une revisite complète, et donc c'est un tome 1, hein, c'est à suivre, parce que évidemment ce tome 1 ne se finit pas forcément très bien.
Okay.
Je sais pas si je réponds bien à ta question.
Ah oui, ouais, non, mais après, tu vois, tu parlais d'une revisite. En même temps, le marsupilami, on veut déjà à l'origine, on veut déjà le capturer pour en faire une bête
soit
de foire, soit le revendre la bête pour.
Non, c'est pas ça au départ. Le marsupilami, c'est pour toucher l'héritage. Et ils ont dit Fantasio a des épreuves avec son cousin
Zantafio.
Et
ouais.
La dernière épreuve, c'est de trouver un marsupilami.
Exact. Mais ça, c'est dans une des histoires.
Non, mais c'est dans la première.
Ouais.
Et après, ils le donnent à un zoo, ils le font sortir tout de suite dans l'histoire suivante de mémoire.
Ouais, c'est ça qui me... Parce que ça me parlait, l'histoire des zoos, là, quand tu as parlé de l'importation des bêtes.
Tout à fait. Mais Nico a raison sur le premier tome, c'est ça, c'est le défi.
Après, Franck P. avait fait un Spirou aussi fort. Enfin, de toute façon, Franck P., il s'est pas dessiné autre chose que des animaux, pour schématiser.
Mais il est dessiné plutôt pas mal.
Ouais. Non, disons que il excelle à ça. Pour le reste, il est pas manchot quand même. Et là, ce qui est très fort, c'est que tu peux critiquer son traitement des humains, mais pour autant, un créateur d'ambiance et une narration qui sont, à mon avis, excellentes. Mais comme je disais, si tu rentres pas dans le trip, je comprends que tu puisses passer à côté.
Franck Pay,
mais par contre, c'est superbe.
Il a fait pas mal de choses qui sont presque des tableaux. Est-ce que on a cette impression de peinture dans cet album-là ou c'est beaucoup plus crayon, j'imagine que c'est pas informatique?
Non, t'as un côté aquarelle, mais c'est curieux parce que pour donner ce côté réaliste dont je parlais dont je parle depuis le début, les couleurs sont très passées. C'est-à-dire que même le jaune du marsupilami, il est rarement jaune, il est plutôt marron ou ocre. Il est sale, il est gris. Ça pète pas de partout, t'es pas sur des couleurs vives et donc t'es dans un mode aquarelle. Moi je retiens surtout un jeu de lumière qui est hyper impressionnant parce que t'es dans la banlieue de Bruxelles, t'es dans un milieu, je le disais, ouvrier, t'as pas beaucoup de moyens financiers pour ces gens-là, donc peu d'éclairage, t'as un jeu de lumière digne des peintres belges, des Vermeer et tout ça. Par moments c'est magnifique pour ça.
Eh ben.
Et toute l'intro, c'est ça.
Ok, merci Franck. Donc tu nous parlais de La Bête.
La Bête.
De Zidrou et Franck P.
Aux éditions Dupuis.
Thibaut, on va enchaîner sur le deuxième tome d'un de tes coups de cœur de l'année.
C'est ça, Octofight, le tome 2. Je rappelle le pitch vite fait de cette BD. On est en France en 2050. Le pays est dirigé par Mohamed Maréchal Le Pen. Donc voilà, ça prend
c'est vrai.
Tous les partis politiques se revendiquent d'une branche poussée à l'extrême du gaullisme. Alors c'est bien parce qu'avec la célébration récemment là autour de Gaulle et tous ceux qui prenaient la parole en disant
c'est
que Gaulle
incroyable.
N'aurait jamais fermé les librairies.
Est-ce que De Gaulle aurait vendu la France à Amazon?
Ah mais plus je regarde les infos, plus je me dis que cette BD, elle est prémonitoire.
J'espère pas quand même.
Alors la question de la surpopulation, elle a été tranchée en obligeant l'euthanasie des plus de 80 ans en fin de droit, et Stéphane, qui est le personnage principal, s'est fait choper avec des traces de nicotine dans les urines, donc pour lui et sa femme Nadège, Il n'y a plus le choix, il faut fuir chez les néo-ruraux, chez qui il sort des octogénaires, là se décide sur le ring. Donc il y a des parieurs qui tiennent les rênes de ces arènes, justement. Et puis le vainqueur, lui, il gagne ses médocs. Alors dans le deuxième tome, eh ben, il se trouve que Stéphane se révèle être un combattant vraiment redoutable. Alors Raymond, son parieur en chef, son propriétaire même on peut dire, il décide de l'envoyer à l'Octofight Champions League. Alors c'est une compétition qui a lieu une fois par an, où il y a des centaines d'octocombattants qui se rassemblent, évidemment les meilleurs, hein, c'est comme la Champions League en foot, même si des fois il y en a des mauvais. Et puis il y a des milliers de néo-ruraux qui sont autour de ces combats, et tout ça dans la plus grande clandestinité, évidemment. Stéphane, lui, au cours de cette compète, il va essayer de fomenter une révolte pour plus de droits des combattants. Et pendant ce temps-là, on retrouve un autre personnage qui prend de plus en plus de place, c'est Bernadette, la petite fille de Nadège et Stéphane, qui tente de les retrouver, parce qu'il y a des images des combats qui ont fuité sur quelques réseaux sociaux. Et pour ça, elle va se rapprocher de ses copains du commando François Bérou. Le commando François Bérou, c'est un des rares groupuscules dissidents de cette société du futur. Voilà un peu tout ce que nous raconte. C'est très difficile de résumer parce que c'est très barré, mais c'est très très bien fait. C'est toujours aussi fluide et dynamique. Ce tome 2, il s'avale tout seul. C'est pas que c'est léger, mais c'est vraiment très très dynamique. Vraiment, ça glisse tout seul comme une dragée de space-fond, là, hop. Il y a pas de, ça accroche pas du tout la gorge.
Et passer l'effet de surprise du tome 1, le tome 2, t'y as trouvé ton compte quand même?
Ouais, oui, j'ai trouvé mon compte parce que, par exemple, alors il faut pas, je peux pas trop en raconter.
Trop mais, en dire, ouais.
Par exemple, on commence à se demander si les flics ne sont pas dans le coup des combats d'octogénaires. C'est-à-dire, ces soi-disant combats clandestins et ces néo-ruraux qui sont apparemment dans des zones de non-droit, il n'est pas impossible que certains flics et la police soient mêlés à l'affaire.
Et il y a pas, y a pas un sous-sens. Enfin, je sais plus. Je l'ai lu il y a une paire de temps. Moi, cet homme-là. Il n'y a pas aussi d'éventuels liens avec l'Élysée qui sont évoqués à un moment.
Alors, il y a d'éventuels liens avec l'Élysée. C'est la deuxième chose qui est vraiment savoureuse dans ces albums. C'est il y a des passages qui déconstruisent la réflexion politique autour de certaines questions de société. Par exemple, la gestion de la surpopulation et de la population vieillissante. Et on a des échanges de... Alors, c'est pas vraiment des politiciens, c'est plutôt des membres de cabinet, des élus en place, qui disent « Non, mais attends, on va telle question un peu sensible, on va la décomposer en telle thématique. » Comme ça, en premier lieu, on va faire passer ça à la population, et après on embrayera sur ça, et à la fin, le fait d'euthanasier les octogénaires en fin de droit, ça va passer comme une lettre à la poste. Et ce côté-là, rapport au mécanisme actuel, hein, clairement, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, c'est très très sympa à lire. Il y a aussi quelques scènes savoureuses, comme le combat de Stéphane contre Daft Punk, un des Daft Punk, parce que tout le monde aura 80 ans un jour, hein, donc voilà. Et un dessin en noir et blanc avec des nuances de gris sur un bouquin format roman, hein, quelque part. Foncez, il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment moi mon petit régal de cette année.
Le vrai dommage là-dedans, c'est qu'on aurait dû avoir le tome 3 là, il est reporté pour le moment à janvier.
Le tome 2 est sorti quand exactement?
Le tome 2
octobre, je crois. Non, c'était le tome 1 août, non?
Ils sont sortis très rapprochés. Hein.
Parce que le premier ça, devait sortir pendant le premier confinement, donc ils l'ont reporté en août, je pense.
Septembre, donc il a dû sortir fin septembre, je crois.
D'accord. Et donc ouais, le 3 était censé sortir maintenant, mais deuxième effet confinement, donc il est reporté aussi.
Ben voilà, c'est ça.
Ce qui veut dire que le tome 4, on va l'avoir vite.
Ouais. Si ah non, c'est en 3 tomes.
C'est en 3 tomes, mais
c'est bien ce que je dis, il va sortir vite.
Ouais, c'est pas très grave, parce que franchement, ça mérite... peut-être un peu plus de visibilité. Moi, je comprends pas pourquoi on passe à côté. Alors, c'est peut-être le format et le prix lié
à... Mais c'est clair, le format, tu le rates. Hein. Ça fait pas
après,
sérieux.
La thématique plaît pas non plus. Enfin, tu vois, c'est quand même assez engagé politiquement.
Bon, c'est pour ça qu'il faut en parler, donc.
Ouais, mais enfin, si tu veux,
engager les... politiquement, c'est...
Bah, plus engagé que les vieux fourneaux, par exemple.
Oh, c'est clair. Non,
si
bah,
tu
c'est
veux
clair.
Prendre une histoire de vieux, enfin, soi-disant...
Ils se révoltent, bah ça, c'est... Ouais, 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 c'est sûr.
C'est autre chose.
Bah, que... Surtout le dernier tome.
Ouais, enfin...
Non, parce qu'au début, il y a un petit quelque chose quand même dans le premier tome.
Ouais, donc c'était, enfin, c'est pas le sujet.
C'était, je sais pas si vous avez d'autres questions ou pas, mais...
Non, c'était bien, si, tu m'as fait envie, là.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'illustration du grand remplacement évoqué dans ce tome aussi.
Ouais. Alors, il y a quelques presque pleines pages, là, avec des grosses références qui sont vraiment savoureuses. Il y a beaucoup de choses à dire, trop de choses à dire. Foncez, vraiment, lisez Octofight de Yannicker et Pacheco. C'est édité chez Glénat dans la collection Très Étrange.
Ok, merci Thibaut. On va faire la deuxième pause musicale. I Want to Ride des Porches. Troisième partie des Gardiens de la BD, avec encore une suite, cette fois-ci, on va parler du 13e tome du Scorpion, qu'on avait laissé en mauvais état à la fin du tome sorti l'an passé, mais cette fois-ci, tout va mieux. Le scénario, enfin tout va mieux, pourquoi tu rigoles? Le scénario, c'est toujours Desberg. Par contre, au dessin, c'est un nouveau, c'est Critonné. Ou Criton, je sais pas comment on dit, j'ai pas fait italien, qu'on a vu travailler notamment sur des adaptations de jeux François Villon d'après Jean Tellet, et plus récemment sur un scénario JP avec Aldo Brando.
Ouais, très bon bel album.
Voilà. Donc, je vais essayer de résumer le Scorpion, qui, contre toute attente, commence à Cracovie, en Pologne, alors qu'on s'attendait plus à voir des paysages
méditerranéens. Un désert pour un Scorpion, mais pas du tout.
Non. Et on découvre un Cosaque juif albinos
Oh.
qui cherche quelqu'un et qui a l'air très énervé et qui s'en
Qui est pas
prend.
content.
C'est le janitor.
Ouais, bah presque. Il se peut que ce soit pas l'un de ça à la fin en plus. Et donc il s'en prend dans les, il s'en prend aux juifs fraîchement convertis. Franck, c'est ça, hein, si je me
Ouais,
trompe
c'est
pas.
ça. Parce qu'il planque des reliques avec un nom masqué.
Avec un nom masqué qui va être un des
Un
enjeux du
cartouche.
truc.
Donc on sait que ça parle d'Égypte.
Voilà. Et du coup, rapidement, ils se rendent compte que donc le Cosaque juif va devoir aller à Constantinople. Constantinople, où on retrouve le Scorpion qui cherche toujours à rejoindre, enfin à retrouver Medjay, son ancienne amante, et surtout l'enfant qu'elle portait de lui.
C'est ça, c'est
C'est
bien.
ça. Lui, il va se retrouver mêlé à cette histoire de recherche de reliques comme du temps de ses jeunes années. Je ne vais pas en dire plus parce que ça se lit rapidement, il n'y a pas trop de scénario parce que c'est un nouveau cycle.
T'es vache à dire qu'il n'y a pas de scénario quand même. Il
Non, mais.
y a d'autres personnages qui rentrent en ligne de compte. T'as pas parlé du tout des deux personnages qui vont graviter le plus autour de lui
De
et
l'eunuque
qui
et
vont être
de
sa conséquence.
la. Ouais,
Bah oui, de
l'eunuque et
sa
la sorcière,
commandante.
tu veux dire? Oui, enfin la sorcière,
Ça,
oui.
la mystérieuse sabbatéenne qui va être sa commande. Enfin, son commanditaire, j'allais dire, mais au féminin, ça va être compliqué.
Sa patronne. Et enfin, oui, donc voilà, lui, il va se retrouver aussi sur comme au temps de ses belles années, sur le trafic de reliques. Et donc, le destin du scorpion va être amené à rencontrer Golam, je crois, qui s'appelle le Cosaque.
Ouais, c'est ça.
Alors, moi j'étais surpris parce que j'ai l'impression qu'il y a une énorme ellipse entre le tome 12 et le tome 13.
Mais il y a 2 ans, à vrai dire.
Et j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de trucs. Alors, c'est peut-être dû au changement de dessin. Parce que j'ai l'impression que le scorpion est plus vieux que l'an passé.
Je te rejoins. Je te rejoins et c'est pas. Mais je pense que c'est pas que graphiquement, c'est aussi scénaristiquement. Et moi, ça m'a choqué sur une case. Où je me suis vraiment posé la question en la voyant, comment Marini aurait géré cette case-là, où à un moment le scorpion il attend, il est assis, il est en train de voyager avec 3 autres personnes, ces 3-là sont autour d'un feu en train de se marrer, de bouffer et de boire, et lui il est assis un peu à l'écart et l'air totalement à côté ou perdu dans ses pensées, sans action. Plan-plan, et je me suis. Enfin, c'est vraiment. Ça dévoilait un aspect de sa psychologie, là où d'habitude Marini, il fait tout dans l'action quasiment.
Ouais, c'est ça. J'ai un peu l'impression qu'on est passé du comics, enfin, pour simplifier, hein, avec Marini au dessin, où c'était plein de scènes d'action qui
Ouais.
s'enchaînaient. Et tu avais l'impression que Desberg essayait de mettre un scénario entre les différentes scènes, à quelque chose de plus posé, de plus européen.
Alors moi je suis pas persuadé que ça soit dû au scénario justement. Je crois que c'était la faculté de Marini que de le mettre dans le personnage dans une position d'action, même si c'était pour passer le sel à table. Là j'ai l'impression qu'à l'inverse de ça, Critone, il le fait beaucoup plus posé, enfin il suit à mon avis plus le scénario. Mais c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part.
Ouais, mais après Desberg, son scénario est aussi moins. Enfin, il n'y a pas de grosses scènes d'action comme il y en avait à chaque fois dans ce tome-là, en fin de compte.
C'est une relance, c'est
C'est
une relance.
plus. Ouais, mais c'est plus posé, et ce qui fait qu'on a un changement de ton assez surprenant auquel je m'attendais pas, moi, en fin de
Et
compte.
que t'as aimé ou pas finalement?
Oui, si, ouais, ça m'a pas dérangé. J'ai eu plus de mal avec les dessins critonnés. Certaines
Ah bah.
fois, t'as l'impression des fois que c'est du. Alors, il y a un côté classique italien, un peu à la Manara, j'ai trouvé. Alors sans, et mal, par contre, toute la enfin, je sais pas, c'est peut-être l'effet MeToo, toutes les gonzesses ont perdu 2 ou 3 bonnets de soutien-gorge.
Bah c'est pas Marini.
Ouais, voilà,
Voilà. Et moi, je pense qu'il doit être dans une transition entre le trait et l'esthétique que pouvait Marigny des tranches de ses personnages. Dans les premières pages, tu retrouves les gueules patibulaires, toujours les tranches qu'avaient certains personnages de Marigny. Et plus tu avances dans l'album, et plus tu vas vers ce que Crittonet sait faire. Donc je pense qu'il est en train de prendre le personnage à sa patte. Moi, j'ai été moins gêné. J'ai beaucoup aimé le graphisme. Vraiment beaucoup. J'étais plus gêné par le scénario, par le finalement les deux pistes, les deux thématiques principales. Je trouve qu'elles s'emboîtent mal. C'est-à-dire d'un côté il a envie de retrouver son gamin et de suivre Medjay, mais d'un autre côté on l'embauche pour faire autre chose. S'il était vraiment aussi accaparé par son gamin, il laisserait tomber l'autre. Et donc t'as l'impression qu'il cède assez facilement aux sirènes de son ancien job de chasseur de trésors. Et finalement, ces deux histoires, je trouve qu'elles se relient mal, finalement. Et il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui soit plus imbriqué et plus naturel.
Après,
c'est un tome introductif.
C'est un tome introductif. ce que je demande à voir, moi, ce qui est annoncé, c'est que Desberg ferait des diptyques. Il risque d'y avoir beaucoup raconté dans le deuxième tome.
Peut-être, ouais. Ou alors il va nous faire une histoire simple et ouvrir beaucoup de pistes sur la suite, mais...
Ouais, on réponse l'an prochain, je pense, ce qui va tenir ces délais par rapport à Marigny. Et donc, moi, je le conseille, notamment ceux qui avaient préféré le premier cycle du Scorpion, quand il n'était qu'un chasseur de trésors, et toute l'histoire autour de sa famille réelle était qu'une toile de fond avant que ça devienne le sujet principal.
L'histoire, ouais, tout à fait, moi, je te rejoins.
Donc voilà, mais ça vaut le coup de conseiller, de toute façon, moi je pense.
Je le déconseille pas pour ceux qui ont aimé les premiers par Marigny, c'est pas le changement de dessinateur qui doit les rebuter.
Non, voilà. Donc c'était le 13e tome du Scorpion de Desberg et Crittonet chez Dargaud. Franck,
merci Nico.
Tu vas enchaîner.
Moi aussi je fais une suite.
Ouais, bien alors toi, plus 38e tome de Torgal. Alors Yann au scénar et Vigneault au dessin.
Fred Vigneault au dessin. Alors, sachant que je l'avoue tout de suite, ça fait longtemps que j'avais pas lu un Torgal et donc je n'ai pas lu les tomes précédents. Et finalement, c'est pas mal parce que celui-là se lit très bien indépendamment des autres. Il y a un tout petit résumé au départ. On retrouve les personnages qu'on connaissait déjà, à savoir Torgal, Jolan et Louve. Donc c'est essentiellement eux les personnages de cet album.
Donc Torgal et ses deux enfants.
C'est exactement ça, oui. Et on commence en fait par une scène dans laquelle Louve est capturée. Elle est dans une cage et elle essaie de comprendre comment elle est arrivée là. Et on passe dans un flashback à une scène où elle est encore avec son père et son frère. Ils sont encore chez eux et on comprend comment elle en est arrivée à disparaître et à se faire enlever. Parce que finalement... toute cette histoire va se passer sur une île mystérieuse qui pourrait être les îles Féroé, un peu à l'écart, où une peuplade un peu viking forcément a des pratiques un peu particulières, à savoir que une journée par an ils désinguent tous les phoques de la baie et des environs, donc ils rendent la mer toute rouge, comme on le voit sur la couverture finalement. La couve est rouge comme ça, parce que il y a une vieille légende qui raconte que le personnage de la Selkie, c'était une femme phoque, avait été capturée par un humain et elle avait cherché à se venger, et donc cette île elle est presque inaccessible à cause de cette déesse, et donc les humains essayent de réagir, enfin le peuple, cette peuplade essaie de réagir en fonction d'eux. Enfin, je vais trop en dévoiler sinon. C'est un tome qui se lit assez facilement. On a de l'aventure, on a des rebondissements, des coups de théâtre, ça fonctionne plutôt pas mal. Clairement, c'est pas sur Torgal, Jolan et Louvre qu'on en apprend le plus. Ils sont presque un prétexte à découvrir cette peuplade finalement. Donc lecture facile pour moi. J'ai pas eu de difficulté à me replonger là-dedans et j'ai été très surpris par les qualités esthétiques graphiques de Fred Vigneault. Pas pour moi, enfin, parce qu'on a eu quand même trois auteurs différents. Il y avait Rosinski, ensuite on a eu Surzenko, et là on passe à Fred Vigneault.
Surzenko, il avait fait la série mère ou il n'avait pas fait que les séries dérivées?
Ah, bonne question, là je sais plus, là tu me colles parce que ça fait longtemps que je me suis pas lu les différents albums. Tu me poses une colle. Ouais, en tout cas, esthétiquement, il est vraiment dans la même veine et il est efficace. Hein. J'ai beaucoup aimé le graphisme aussi.
Ok, sachant que Thibaut, t'as une question ou pas?
Pas du tout.
Bon, sachant que du Torgal, on va en manger dans les années qui viennent, puisqu'il y a une collection de one shot à forte pagination qui a été indirectement annoncée, puisque Robin Reich a annoncé travailler sur un one shot d'une centaine de pages qui sortira.
C'est peut-être pas mal. Hein. Parce alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en le lisant et avant de prendre trop de temps, ça m'a fait fort penser évidemment à Asgard de
Dorisson et Meyer.
Ouais, parce que le personnage est balancé sur une autre île. Enfin, bref,
et voilà. Qui était au départ un scénario proposé pour Torgal.
Oui, je sais, tu en as déjà parlé dans cette émission, monsieur.
Voilà, mais donc il y a d'autres auteurs que Reich qui en travaillent, mais ce sera en off.
Ok, donc Torgal, tome 38, pour ceux qui lisent la série, pour moi ça reste dans la même veine, c'est Fred Vigneault et Yann au scénario, et on est aux éditions Le Lombard.
Et on va faire la dernière pause de cette émission, pause musicale, Alcoholics in the Place de Sapiens Sapiens.
Yes.
Is an alcoholics in the place? Is an alcoholics in the place? Is an alcoholic? Is an hour? Is an hour? Is an hour? Is an hour?
To get the hits off, plus I get my dick off. I bend off some shit, just spit, cause it was pork.
I'm just a smoky boy.
A man and his mental, listen in the zone, licking with the fan in the window. Can it be so simple then?
Yeah,
it's an alcoholics in the place. It's an alcoholics in the place. It's an alcoholics. It's an alcoholics. It's an alcoholics. It's an alcoholics. It's an alcoholics.
Our shit returns like resurrections in religion. Was fucking with the fact we only bullshit. Who's this? Kicking in your busy box, Chris. As long as the boom squad is hearing me clear, there ain't another rap.
I can feel high, high, high.
I feel high.
That could go to a thrift shop, bring that get up to the ghetto.
GC's be the ultimate.
G in the galaxies, the Bomba Z's is here for ya. So seem the Vega and picture your icy, cause it's a sweet victory looking from where I'm at. Shotty boy, that's the disco in.
It's time to free the mind, it's time to meditate, it's time to get it straight on the date.
Keep my head high, let the chrome smooth my shit.
It's an alcoholic. It's an alcoholic in the place. It's an alcoholic. It's an alcoholic. It's an alcoholic. It's an alcoholic. It's an alcoholic.
Mary Jane, you're always in my brain, man, you help me ease the pain. Cause when you're not around, I just don't feel the same.
Play it loud at volume 10, I'm sorry if the bass for my box can be heard in your apartment.
I can feel high, feel high,
feel high.
Smoke my shit, smoke my shit.
I can feel high,
feel high,
Dernière partie des gardiens de la BD, Thibaut, tu vas nous parler de Sapiens, Van der Meulen,
Cazenave
et d'après Harari.
Voilà, une adaptation du livre de Yuval Noah Harari qui a été publié la première fois en hébreu en 2011. Cet auteur-là, c'est un prof d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem. Il propose une vue d'ensemble de l'histoire de l'humanité depuis les premiers hommes à l'âge de pierre jusqu'au XXIe siècle. Et le fondement de la pensée d'Harari pour comprendre le thème de ce bouquin, c'est que Homo sapiens, c'est-à-dire nous, doit son statut d'espèce dominante au fait qu'il est le seul animal capable de coopérer efficacement avec ses semblables. Mais qu'il a aussi une deuxième capacité qu'il différencie de tous les autres, c'est la capacité de croire en des choses qui n'existent que dans son imagination. Alors par exemple les dieux, les nations, l'argent ou bien même les droits de l'homme, on en a parlé pas mal dans l'actualité. Yuval Noah Harari, il est incarné dans cette BD comme le narrateur principal, en tout cas au début, et sa nièce Zoé apparaît régulièrement et sert d'interface pour justifier la simplification des infos qu'on nous donne, un peu à la façon du Monde de Sophie, ce bouquin autour de la philosophie qui est sorti il y a pas mal d'années. Ils se servent, les auteurs, Cazenave et Van der Meulen, d'exemples très très ludiques pour illustrer certains propos. Par exemple, ils vont utiliser des cartes à jouer pour illustrer les différentes générations de Homo sapiens, Homo erectus, Néandertalien, etc. etc. Ils vont mettre en scène aussi certains propos dans une mini-série type feuilleton. Ou alors ils vont créer un héros pour parler de l'imagination d'Homo sapiens qui s'appelle Dr. Fiction. Ça, c'est des leviers vachement intéressants pour faire passer des informations quand même assez complexes, des informations scientifiques. Parce qu'il y a quatre autres spécialistes qui contribuent beaucoup aux propos, c'est deux professeurs, une en biologie et génétique et une anthropologue, et puis deux docteurs, une anthropologue géographe et un autre archéologue. C'est un pavé de 250 pages, un sacré morceau, où on apprend énormément de choses, et si on les apprend pas, les auteurs nous proposent de repenser à tout ce qu'on croit savoir. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est découpé en quatre chapitres qui abordent différents thèmes, que ce soit la sexualité, la fiction, mais aussi le fait que Homo sapiens, c'est une génération de serial killers intercontinentaux, parce que on revient sur le parallèle entre le déplacement des populations Homo sapiens à travers le monde et les extinctions qui ont suivi des mégafaunes des territoires que Homo sapiens conquiert. Voilà, quand Homo sapiens arrive en Australie, très peu de temps après, la mégafaune australienne disparaît complètement. Au tout début du bouquin, il y a des repères chronologiques. Qui débute à moins 13,8 milliards d'années par rapport à notre présent. Et comme souvent dans ces repères chronologiques, on s'aperçoit que vraiment, en très peu de temps à l'échelle de l'humanité, les choses évoluent très très vite. Notamment, il y a 500 ans, au moment de la révolution scientifique, l'humanité qui admet son ignorance commence à acquérir un pouvoir sans précédent. Ou bien il y a 200 ans, quand il y a la révolution industrielle et que l'État et le marché remplacent la famille et la communauté.
Et Thibaut, j'ai une question avant de se quitter. Ça fait vraie bande dessinée ou plus livre illustré ?
Alors c'est vraiment, pour moi, j'ai lu ça comme un reportage dessiné. J'ai pas eu l'impression d'avoir la transposition réelle du bouquin, parce que c'est chapitré et scénarisé comme une histoire, et pas comme un compte-rendu historique. Et j'ai vraiment eu l'impression de lire un reportage dessiné, un documentaire dessiné.
Donc tu recommandes Sapiens,
Sapiens, chez Albin. La naissance de l'humanité, c'est chez Albin Michel.
BD.
Voilà.
Ok, merci Thibaut.
Merci.
Merci Franck.
Merci Nico.
On se retrouve tout le monde. La semaine prochaine et en attendant, à tout à l'heure dans vos rêves.